Vous écoutez On lit pour vous.
John et Cash et les Indiens. Un texte d'Isabelle Picard, ethnologue, autrice et conférencière, texte publié dans la presse du 14 juin 2026. Oui, je sais, encore ce mot, celui qu'il ne faut plus dire. Mais l'histoire que je vais vous raconter se passe en 1964 et à cette époque, bien, c'était encore ainsi qu'on nommait les Premières Nations. Je faisais mon jogging ce matin, une liste d'écoute aléatoire à mes oreilles. D'une chanson entraînante pour garder le rythme, on est passé à la guitare de Johnny Cash. L'époque de sa Gibson, je crois bien. Drôle de musique pour une course matinale. J'ai tout de même souri. J'ai repensé à mon défunt beau-père, celui qui, il y a une vingtaine d'années, m'a fait découvrir l'artiste. Mon ex-beau-père était Mohawk. Une fois sur deux, quand nous entrions dans sa maison à Kanasatake, c'est ce qui jouait. Il disait que Johnny Cash était en partie Cherokee, ce qui a été démenti depuis. Le populaire chanteur a cependant bel et bien été adopté par le clan de la Tortue chez les Sénécas. Ils lui ont donné le nom de Storyteller, le conteur. Ce type d'adoption nous est peut-être pas familière, mais je peux vous dire qu'elle ne se fait pas à la légère, surtout au sein de la Confédération Haudenosaunee. M. Cash avait, aux yeux de tous, grandement mérité son nom. L'histoire est belle. Au début des années 1960, alors que les tensions raciales et le mouvement des droits civiques battaient leur plein aux États-Unis, en lien avec les luttes afro-américaines, Johnny Cash s'intéresse plutôt au sort des Premières Nations de son pays. En 1964, donc, au sommet de sa gloire et à une époque où personne ne parlait des « Indiens », et encore moins des injustices qu'ils vivaient, Cash avait décidé d'en parler et même de les chanter. L'artiste s'est en effet servi de sa notoriété pour attirer l'attention sur le sort des Indiens aux États-Unis, mais aussi ailleurs en Amérique. La parution de son album « Bitter Tears, Ballad of the American Indian », véritable manifeste en faveur des peuples autochtones d'Amérique du Nord, en fait foi. Les textes du disque abordent des termes lourds, racontent des histoires qu'on voudrait taire. Par exemple, « As long as the grass shall grow » est une vive condamnation du gouvernement américain pour la rupture d'un traité historique et la construction du barrage de Kinshua qui a causé l'inondation de près de 40 km² de terres sacrées appartenant à la nation Sénéca dans l'est de New York. Le titre se veut un pied de nez au libellé avec lequel le gouvernement des États-Unis concluait ses nombreux traités avec les Premières Nations, traités bafoués, il va sans dire. Dans la chanson « The Ballad of Ira A », écrite par Peter Lafarge, on raconte l'histoire vraie d'Ira A, un jeune autochtone de la nation Pima, en Arizona, qui s'est enrôlé dans les marines pendant la Seconde Guerre mondiale. A est devenu connu car il apparaît sur la très célèbre photographie de 6 soldats hissant le drapeau américain sur le mont Suribaki lors de la bataille d'Iwo Jima en 1945. Pourtant, malgré son statut de héros de guerre, à son retour aux États-Unis, Hay sera confronté au racisme et à la pauvreté, ce qui le fera sombrer dans l'alcoolisme. Il finira par mourir tragiquement dans la solitude. L'album de Cash n'a pas été, on s'en doute, bien accueilli dans le milieu de la musique country. Les stations de radio l'ont boycotté dès sa sortie, jugeant les textes trop subversifs et non conformes à l'image du patriotisme américain. Même la maison de disques de l'artiste, Columbia Records, va cesser d'en faire la promotion, jugeant les textes trop politiques et trop pro-indiens. Mais voilà, Johnny Cash n'avait que faire de ses critiques. Il a persisté et il a signé. L'artiste a personnellement acheté des encarts publicitaires à pleine page dans les magazines spécialisés tels Billboard pour ouvertement critiquer dans une lettre les directeurs des différentes stations de radio et défendre le disque. Il rachètera également des milliers d'exemplaires du disque pour y glisser la lettre et ensuite parcourir le pays pour le distribuer en personne dans les stations de radio. Une phrase du premier paragraphe de la lettre résume bien la pensée de Cash. Citation: DJ, directeur de station, propriétaire et hôte, où est votre courage? Fin de citation. Cet engagement pour les droits des Autochtones a également valu à Cash une surveillance de la part du FBI, rien de moins. Il y a 60 ans, en juin 1966, celui que l'on surnommait l'homme en noir était adopté par le clan de la Tortue chez les Seneca lors d'une cérémonie. On soulignait ainsi son militantisme face aux injustices, de même que son soutien indéfectible pour avoir mis en lumière ce que d'autres voulaient taire. Cash a écouté, s'est éduqué et a raconté. Et à chaque concert jusqu'à sa mort en 2003, le Storyteller se faisait encore un devoir de jouer quelques pièces de l'album mythique, témoignage d'une lutte jamais terminée. Fin de ce texte d'Isabelle Picard, titré « Johnny Cash et les Indiens », publié dans la presse du 14 juin 2026.
De plus en plus de gens doutent des nouvelles qu'ils consultent. Un texte d'Étienne Paré, paru le 15 juin 2026 dans La Presse. Alors que les fausses nouvelles sont omniprésentes sur les réseaux sociaux et que de plus en plus de gens s'informent en ligne auprès des influenceurs, ne pas faire confiance à tout, ce n'est pas nécessairement quelque chose de mauvais. Tempère, Sébastien Charlton, coordonnateur aux opérations du Centre d'études sur les médias, CEM, de l'Université Laval. Surtout à une époque où les enjeux entourant l'intelligence artificielle sont sur toutes les lèvres. Le CEM a piloté le volet canadien du Digital News Report, une vaste étude internationale sur les habitudes d'information menées par l'Institut Reuters de journalisme de l'Université Oxford. Dans le sondage réalisé l'hiver dernier à travers le pays et dont les résultats ont été rendus publics lundi soir, à peine 49% des répondants francophones ont indiqué avoir confiance dans la plupart des nouvelles qu'ils consultent. C'est une chute de 18 points de pourcentage depuis 2018. C'est difficile d'analyser ces chiffres-là, mais dans les 10 dernières années, il y a des discours contre la profession journalistique qui se sont intensifiés, reconnaît Sébastien Charlton, qui y voit l'une des raisons possibles de cette baisse de confiance. Mais pas la seule. Il faut faire attention de juste imputer ça aux médias traditionnels, poursuit M. Charlton. L'écosystème des nouvelles, ce n'est pas juste les grands médias. C'est aussi beaucoup ce que l'on voit à cause de notre algorithme et que l'on ne choisit pas. Quand on regarde le niveau de confiance que recueille individuellement chacun des grands médias, on voit que ça reste très élevé. Les médias québécois s'en tirent bien. Le Centre d'études sur les médias a testé le niveau de confiance envers les principales organisations de presse au Québec. TVA, Radio-Canada, La Presse, Le Journal de Montréal, Le Devoir. Les résultats sont sans équivoque. Pour chacune de ces marques, le nombre de personnes qui disent ne pas avoir confiance ne dépasse jamais les 15 %. Le phénomène de méfiance à l'égard des grands médias demeure très marginal au Québec. Il est beaucoup plus ancré aux États-Unis et en France. Plus du tiers des Français disent ne pas avoir confiance dans les nouvelles en provenance des deux principales chaînes d'information du pays. Aux États-Unis, le taux de mauvaise opinion à l'égard de grands médias comme CNN ou CBS, frôle les 40 %. Il grimpe à près de 50 % pour la chaîne conservatrice Fox News. C'est quelque chose que l'on observe sondage après sondage. Quand on se compare, on s'en tire vraiment bien, résume Sébastien Charlton, au vu des chiffres récoltés dans les 46 pays où a été menée cette étude. Clivage politique. Même par rapport au Canada anglais, le Québec se démarque. Radio-Canada, par exemple, jouit d'une meilleure cote de confiance que son pendant anglophone CBC. À peine 9 % des francophones au pays jugent les nouvelles présentées à Radio-Canada comme peu ou pas fiables. Côté anglophone, ils sont deux fois plus nombreux à porter ce jugement sur le travail de CBC en information. Le rapport aux diffuseurs publics varie énormément selon l'endroit où on se situe sur le spectre politique. En tout, 42 % des Canadiens qui s'identifient à la droite jugent que les nouvelles diffusées par CBC Radio-Canada ont un effet négatif, voire très négatif. À gauche et au centre de l'échiquier, cette perception est très minoritaire. Au contraire, 63 % des Canadiens qui se disent de gauche considèrent que les nouvelles retransmises par le diffuseur public ont un impact globalement positif. Les gens de droite sont plus méfiants à l'égard des médias que les gens de gauche. C'est quelque chose que l'on observe presque partout dans le monde, et au Québec aussi. Mais ce clivage gauche-droite sur l'attitude face aux médias est beaucoup moins prononcé ici qu'au Canada anglais. Note Sébastien Charlton. C'était de plus en plus de gens doutent des nouvelles qu'ils consultent. Un texte d'Étienne Paré, paru le 15 juin 2026 dans La Presse.
Un pont d'espoir pour les orangs-outans. Un texte d'Éric Pierre Champagne, paru le 12 juin 2026 dans La Presse. Les bonnes nouvelles sont rares pour les orangs-outans en danger critique d'extinction. Mais dans l'île de Sumatra, en Indonésie, un jeune orang-outan a traversé pour la première fois un pont de corde 2 ans après son installation. Un geste en apparence anodin, mais porteur d'un mince espoir pour ces grands singes fragiles uniques au monde. Le 24 avril dernier, la Sumatran Orangutan Society, SOS, a annoncé qu'un orang-outan avait emprunté un pont de corde installé par des humains, une première mondiale. Sur une vidéo, on voit un jeune mâle s'avancer le long du pont avant de s'arrêter pour observer les environs. Il poursuit ensuite son chemin pour traverser de l'autre côté. Ce pont enjambe une route qui sépare, depuis 2023, une population d'environ 350 orang-outans, en deux groupes distincts. L'un des groupes est actuellement pris au piège dans un goulet d'étranglement génétique. Avec le temps, la consanguinité pourrait affaiblir cette population déjà menacée par l'extinction. Utile à d'autres espèces. En fait, 5 ponts de corde ont été installés en 2024 le long de la route Lagan-Pajindar par 2 ONG, Sumatran Orangutan Society et TAUKA, en collaboration avec des partenaires gouvernementaux. Chaque pont nécessite environ 200 mètres de corde. Plusieurs espèces avaient emprunté l'un des ponts depuis 2024, dont des gibbons, des langurs et des macaques, mais aucun orang-outan ne s'y était aventuré. Ce grand singe se déplace généralement d'arbre en arbre. Les personnes de la forêt. Les orang-outans vivent exclusivement dans les forêts tropicales des îles de Sumatra, en Indonésie, ainsi que de Bornéo, que se partagent 3 pays, Brunei, l'Indonésie et la Malaisie. En malais, orang-outan signifie « personne de la forêt ». Une légende indonésienne raconte que l'orang-outan sait parler, mais préfère se taire de crainte d'être capturé par l'homme. Outre sa couleur orangée, l'un des traits qui le caractérise est la longueur de ses bras qui lui permettent de se déplacer d'arbre en arbre. En danger d'extinction. Les orang-outans se divisent en fait en trois espèces qui vivent dans des régions différentes. Ceux de Sumatra, ceux de Bornéo et une dernière de Tapanuli, qu'on retrouve seulement dans le nord de l'île de Sumatra. Les trois groupes sont considérés comme en danger critique d'extinction. Les orang-outans sont les seules espèces de grands singes à ne pas vivre en groupe. L'huile de palme, principale menace. La principale menace à la survie de l'espèce est la destruction de son habitat, notamment au profit de la production d'huile de palme. On rase des forêts tropicales pour les remplacer par des palmiers à huile qui servent à la fabrication de nombreux produits, du Nutella à la pizza, en passant par le beurre d'arachide, les savons ou les cosmétiques. Le palmier à huile est reconnu pour son rendement. Pour produire une tonne d'huile, il suffit de 0,26 HA hectare, soit une superficie bien inférieure à celle que requièrent les autres types d'huile végétale. 5 choses à savoir sur les orangs-outans. Du dimorphisme sexuel. De quoi s'agit-il? Des différences marquées mâles et femelles. Un mâle orang-outan mesure entre 1,20 et 1,50 mètres et peut peser jusqu'à 100 kg. Une femelle ne dépasse pas 1,10 et peut peser de 30 à 50 kg. Un nouveau nid chaque nuit. Avant chaque nuit, les orang-outans fabriquent un nouveau nid pour dormir dans les arbres. Une étude publiée en 2012 suggère qu'ils ont développé une connaissance fine du degré de résistance des différents types de branches. 97%. L'orang-outan partage 97% de son bagage génétique avec l'humain. C'est moins que les gorilles à 98% et surtout les chimpanzés à 98,7%, notre plus proche parent parmi les grands singes. Des joues qui ne passent pas inaperçues. Le cri de l'orang-outan. Seuls les mâles dominants ont d'immenses disques faciaux, faits de tissus et de graisse. Outre l'aspect visuel distinctif, ces joues servent de caisse de résonance permettant de projeter leurs cris plus loin dans la forêt. Des connaissances médicales. En 2024, des scientifiques ont observé un orang-outan traitant une plaie sur son visage avec le jus extrait d'une plante aux propriétés médicinales. Quelques semaines plus tard, la plaie avait complètement guéri, ne laissant qu'une toute petite cicatrice. C'était Un pont d'espoir pour les orang-outans, un texte d'Éric Pierre Champagne, paru le 12 juin 2026 dans la presse.
Immigrants francophones au Canada, bien préparés ou mal informés? Un texte de Camille Langlade, de Franco Presse, paru le 13 mai 2026 dans le Franco. Météo, coût de la vie, logement, place de l'anglais. À leur arrivée au Canada, certains immigrants et immigrantes francophones déchantent. En cause, un manque d'informations sur les réalités de la francophonie en situation minoritaire et des attentes parfois trop élevées. Profiter de possibilités d'emploi en français et en anglais, parler en français et en anglais dans la vie de tous les jours, profiter de services communautaires, de soins de santé ou de services de garde en français. Telle est la promesse d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC, aux nouveaux arrivants francophones. Vivre en français, mais à quel prix? Derrière les cimes du gouvernement, des vies s'écrivent, loin des chiffres. Ici c'est oui, mais non. Le pire manque de préparation, c'est vraiment la température, amorce Julie Caouette, directrice générale de l'Association francophone du Labrador, qui a déjà vu des personnes débarquer en sandales et sans manteau. Il y en a qui n'arrivent pas du tout près. Il y en a qui arrivent tellement près que c'est étonnant, rebondit David Lapierre, coordonnateur du réseau Immigration francophone de Terre-Neuve et Labrador. Ils arrivent avec une résidence permanente, le manteau d'hiver, ils ont déjà un logement, puis ils s'achètent une voiture. Elisabeth Núñez-Peralta, directrice d'accueil francophone TNL, estime que la publicité pour venir au Canada est attirante et très bien faite. Quand les gens arrivent ici, ils s'attendent à beaucoup. Je pense qu'on devrait plus montrer aussi les côtés négatifs, dit-elle. Ayant vécu dans plusieurs pays, elle juge que le Canada n'est pas assez direct dans sa communication. Ici, c'est oui, mais non. Certains employeurs font aussi preuve d'opacité. C'est beaucoup eux qui font le recrutement directement, observe Julie Cahouette à Labrador City. Qu'est-ce qu'ils leur promettent avant d'arriver? Ça, on ne sait pas. La compétition entre provinces n'arrange rien. Dans les salons de recrutement à l'étranger, comme Destination Canada, l'heure est à la séduction, pas à la dissuasion. Les provinces n'auront pas le choix que de dire les bons côtés, parce que si tu dis les mauvais, les autres peuvent tout rafler, signale David Lapierre. Tu ne peux pas tant aller dans le négatif. Les firmes de consultation privée qui accompagnent la préparation des dossiers d'immigration, contre rémunération, n'aident pas. Le gouvernement n'a aucune compétence sur ces entreprises et elles sont nombreuses. Elles ne vont pas donner une vision réelle des défis affrontés par les immigrants parce que ça risque de ne pas attirer autant de clients, détaille la professeure adjointe au département d'études françaises à l'Université de Guelph en Ontario, Janaina Nazari-Gomez. Parallèlement aux informations dites officielles des gouvernements et des institutions, la chercheuse identifie d'autres sources informelles comme les influenceurs et les groupes Facebook. C'est là où ça commence à être plus honnête, où les gens ont l'impression d'avoir des informations réelles sur les coûts de la vie, la difficulté de louer un appartement. Pour elle, les prestataires de services auraient tout intérêt à investir ces espaces. Ses recherches ont en outre révélé un angle mort. Peu d'études s'intéressent aux dynamiques linguistiques des immigrants francophones et à comment cela affecte leur établissement. Nous avons un problème de rétention, pas seulement géographique, mais aussi linguistique, affirme Janaina Nazari-Gomez. Même si le gouvernement parvient à augmenter sa cible d'immigrants francophones, cela ne veut pas dire qu'ils utilisent forcément le français une fois arrivés, rappelle-t-elle. Certains veulent s'assimiler parce qu'ils ont développé une grande déception. D'autres abandonnent carrément leur langue maternelle ou inscrivent leurs enfants dans des écoles anglophones, à dessein. Pourtant, envoyer son enfant à l'école francophone est la meilleure manière d'assurer qu'il sera parfaitement bilingue à la fin du cursus, avance la directrice générale de l'Observatoire en immigration francophone au Canada, OIFC, Kimberly Jean-Farin. Et ça, malheureusement, beaucoup de personnes immigrantes n'en sont pas conscientes. Choix de raison. Le cas du Nunavut. La plupart des nouveaux arrivants n'ont pas les informations exactes. Surtout pour le Nunavut, parce que pour beaucoup de gens, c'est une terre inconnue, même pour les personnes qui sont ici au Canada, soulève Francis Essebou, directeur général de Carrefour Nunavut. Froid, absence d'arbres, coût de la vie, isolement géographique et social, les défis sont réels. Mais l'emploi, lui, est quasi garanti. C'est pour ça que je parle de choix de raison. L'organisme francophone prépare le terrain. Un guide expose les réalités du territoire, la place dominante de l'anglais, celle de l'Inuitut et de l'Inuinartun. Les nouveaux arrivants sont même accueillis à l'aéroport. Maintenant, ceux qui passent par des réseaux informels ou qui ne passent pas par nous, ils viennent au petit bonheur la chance. Le mythe du bilinguisme. La question du bilinguisme revient souvent sur la table. Plusieurs immigrants francophones sont mal préparés et quand ils arrivent, ils pensent que tout peut se faire en français, que le Canada est un pays bilingue, constate Janaina Nazari-Gomez. Ce qui soulève, selon elle, un problème éthique. Il y a encore des informations qui ne sont pas bien véhiculées. Pour faire accroître l'immigration en situation minoritaire, on ne peut pas ne pas dire aux immigrants toute la vérité, parce que c'est leur vie, ce sont leurs rêves. Il faut être blunt, il faut être extrêmement honnête, dit-elle. Le Canada, un pays bilingue? Au niveau fédéral, oui, mais au niveau provincial, non. Mais comment tu vas savoir ça? Si on le met dans les programmes de pré-arrivée, ces petits détails valent beaucoup, soutient Elisabeth Núñez-Peralta. Faille dans le système. On pourrait en faire beaucoup plus en matière d'information et de préparation des nouveaux arrivants, estime Kimberly Jean-Farin, qui n'hésite pas à parler de lacunes. Le service Pré-départ Connexion Francophone, financé par IRCC, propose un accompagnement personnalisé gratuit, mais il nécessite d'avoir la résidence permanente. C'est déjà un premier frein, dit-elle. L'OIFC mène actuellement une étude sur l'immigration francophone au territoire du Nord-Ouest. Ce que les participants ont soulevé, c'est un décalage entre leur attente initiale et la réalité locale, commente la responsable. Les gens ne doivent pas rester isolés. C'est très facile d'arriver dans une ville comme Ottawa, Halifax, Edmonton, et ne pas savoir qu'il existe une minorité francophone, des associations, une vie culturelle en français, insiste le directeur général de la Fédération des communautés francophones et acadiennes, FCFA, du Canada, Alain Dupuis. Le renvoi vers des prestataires francophones est loin d'être systématique. On sait qu'en ce moment, si un nouvel arrivant tombe sur un organisme en anglais, celui-ci ne prend pas la peine de l'informer qu'il peut recevoir des services en français d'un autre organisme, regrette-t-il. Près de la moitié des nouveaux arrivants d'expression française n'ont pas recours à des services d'établissement en français. Changement de ton. À travers les années, on a beaucoup entendu que les gens n'avaient pas nécessairement reçu leur juste, reconnaît Alain Dupuis. Il cite la promotion à l'international d'un Canada bilingue qui donnait l'impression d'un pays où on peut se servir des deux langues de façon assez uniforme partout sur le territoire. « Nous ne sommes pas là pour vendre du rêve », lâche Alain Dobie, le directeur du réseau en immigration francophone du Centre Sud-Ouest de l'Ontario, RIFCSO. Autrement dit, il faut être réaliste sans être défaitiste. Avoir un certain niveau d'anglais est désormais présenté comme un atout, dit-il. Le ton a aussi changé. On ne fait plus juste la promotion comme si c'était une destination de voyage d'été. Des pistes existent. David Lapierre cite le Nouveau-Brunswick, qui mise sur la formation professionnelle à distance, avec des écoles au Maroc et en Tunisie. Résultat, les candidats arrivent avec un diplôme reconnu et un avant-goût de la réalité professionnelle. Il parle aussi de casting. Ce n'est pas tout le monde qui est fait pour aller en Ontario ou à Terre-Neuve. Reste la question de posture. L'approche d'IRCC, c'est beaucoup client, 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 déplore Elisabeth Nunez-Peralta. Nous, on veut traiter les gens comme des amis, pour qu'ils trouvent en nous des gens qui vont devenir leur famille. C'est un défi continu, conçoit Alain Dupuis, alors que l'immigration francophone est passée de 9 000 à 30 000 résidents permanents par an. Car au bout du compte, l'enjeu est simple. Je dois être capable de savoir que je vais aller acheter du pain et que je vais pouvoir discuter avec quelqu'un en français, résume Janaina Nazari-Gomez. C'était « Immigrants francophones au Canada, bien préparés ou mal informés ?» Un texte de Camille Langlade, de Franco Presse, paru le 13 mai 2026 dans le Franco.